Bonjour Arnaud Desplechin.
Bonjour.
Vous êtes présent en Suisse dans le cadre du Festival du film français d'Helvétie pour votre film Spectateur, point d'exclamation, spectateur au pluriel. Quelle est la genèse de ce film ?
Bien, c'est le producteur Charles Gilbert qui me disait « Est-ce que ça vous intéresse de faire un film sur les salles de cinéma et ce sera un documentaire ?» Alors ma réponse a été immédiate, j'ai dit « Je ne sais pas faire les documentaires, donc ça va être un film hybride avec des bouts de souvenirs, des bouts de fiction, des bouts de documentaires, des bouts d'essais, ce que j'appelle des essais, c'est-à-dire des extraits de films avec une narration et de la musique. » Et donc le film s'est inventé comme ça, il s'est inventé avec une très grande joie.
Vous avez déjà lu mes questions en faisant quasiment la chouette à l'envers sur ma feuille, parce que vous avez anticipé, vous mélangez les genres, effectivement, fiction et documentaire. Mm-hmm. Documentaire où on voit justement des spectateurs, des spectatrices parler de leur expérience.
Ah oui, c'est ça.
Et puis, fiction, on retrouve votre alter ego, Paul Dédalus.
Oui, je pensais que Paul Dédalus était un bon fil conducteur, ça fait comme un roman d'éducation, quoi. Voilà, et il s'éduque à être spectateur. C'est-à-dire, il devient de plus en plus spectateur, on le voit spectateur. Et ce que j'aimais bien, c'était l'idée qu'on retrouve Paul Dédalus à travers plein d'incarnations. On le voit quand il a 8 ans, mais on le voit aussi après quand il grandit un peu, il s'occupe du ciné-club. C'était Milo Machado Graner qui jouait le rôle. Puis on le retrouve à 20 ans, et puis on le retrouve après. Et à la fin, c'est Salif Cissé qui le joue. On le voit en jeune fille quand il est dans un café de philosophes comme ça et qui discute. Donc c'est plein de facettes, même Paul Dédalus. Et ce que j'aimais bien dans ce héros chez Paul Dédalus, mais c'était pareil il y a très longtemps, dans comment je me suis disputé, c'est que c'est le parfait spectateur. C'est quelqu'un qui aime admirer. Paul Dédalus, il adore admirer. Il trouve « j'ai vachement de chance de connaître une telle, j'ai vachement de chance de voir tel ami, j'ai vachement de chance de voir tel film. »
J'ai déniché tel film tchèque,
voilà,
que personne n'a vu.
Voilà. Et alors ça, il est tout content. Et donc, je trouvais que c'était un bon véhicule quoi, pour le spectateur. En même temps, je voulais accueillir tous les spectateurs. Il y a cette scène que j'aime beaucoup avec des spectateurs anonymes, et quand je les ai filmés, je ne les connaissais pas. J'avais demandé à ce que ce soit blind, donc il n'y avait pas de casting. Enfin, la casting, elle est choisie des gens, moi je ne les connaissais pas. Donc il fallait que ce soit une vraie rencontre, et que chacun, à travers des questions ou très triviales ou très profondes, se dise c'est quoi d'être spectatrice ou spectateur de cinéma.
Je vous laisse avaler un petit peu d'espresso, parce que vous êtes tombé du lit, vous avez quitté la ville lumière pour la ville grise sous cumulonimbus. Pour être en Suisse avec nous, pour nous parler de spectateurs. Alors Arnaud Desplechin, vous avez mentionné Paul Dédalus. On le voit d'abord, justement, enfant. Il va au cinéma avec sa grand-mère et sa sœur. Et il a déjà vu des films, apparemment, à la télévision. Il est, en fait, plutôt intrigué par la salle, par l'installation, par la cabine du projectionniste.
Oui, c'est ça. Mais c'est un souvenir d'enfance, de ma première projection à Roubaix avec ma grand-mère. Et nous n'avons pas vu le film jusqu'au bout. C'était le même film, c'était le Louis de Funès dans le Fantomas. Et oui, j'avais vu des films à la télévision. Alors bon, oui, voir un film, d'accord, oui, c'était un peu plus grand que sur une télé, quoi. Voilà. Et ce que je trouvais incroyable, c'était ce faisceau de lumière, là, vous voyez la poussière ou la fumée là qui poudroie dans les cinémas un petit peu vieillots et tout ça.
Et donc, depuis la cabine du projectionniste.
Voilà. Alors j'avais déjà été au cirque. Alors vous voyez, je trouvais ça très curieux parce qu'au cirque, le dispositif
circulaire.
C'est circulaire. Et donc ce dispositif frontal m'étonnait. Et donc je regardais partout et c'est ma grand-mère qui m'a dit non, on s'assied dans ce sens-là, etc. Donc j'ai appris comment est-ce qu'on faisait. Donc grâce pour ma grand-mère qui m'a enseigné comment regarder un film.
Et vous n'avez pas vu Fantomas jusqu'au bout parce que votre sœur a eu peur ?
Oui, elle était terrifiée. Et pourtant, elle était plus âgée que moi. Alors du coup, je suis retourné voir d'autres films, quoi. Donc voilà, et puis vous voyez, c'est comme ça que commence une passion de spectateur.
Et un parcours de cinéphile. Vous avez vu Crier et chuchotement comme Paul, tout seul,
oui.
Première projection seule.
Ah oui, c'est pas la première projection seule, mais je crois que le film était interdit au moins de 14 ans, au moins de 16 ans, ou un truc comme ça. Donc j'ai dû tricher sur mon âge. Il n'y avait pas vraiment mort d'homme, quoi. Vous voyez, ça allait très bien. J'ai vu après aller au cinéma, je me souviens comment j'ai dû tricher pour aller voir l'Empire des Sens et l'Empire de la Passion, ce qui était autrement plus scandaleux.
Voilà. Il était même un peu un cinéma de niche dans certains ciné-clubs. À propos de ciné-club, justement, Paul Dédalus, il a déniché un film extraordinaire, tchèque. Il le présente sans l'avoir vu et il dit que ça va être une perle. Et il y a quelques cinéphiles du lycée qui sont là pour assister à la séance.
Oui, alors moi, je ne montrais pas cela, mais je tenais, c'est un film de Chitilova, qui est une réalisatrice tchèque, Vera Chutilova, qui est tout à fait subversive comme ça. Et ça me plaisait qu'il y ait des réalisatrices, qu'il n'y ait pas que des réalisateurs. Moi, je montrais du cinéma nouveau brésilien, vous voyez, quand j'avais le même âge. Donc, ce n'était pas tout à fait le même genre de cinéma. Mais voilà, je trouvais que c'était bien de montrer cette cinéaste que j'aime beaucoup. Et oui, parce que comme l'Internet n'existait pas, donc les films, on ne savait pas ce qu'on allait montrer. Vous voyez, il y avait la copie qui arrivait, la copie film, on le voit qui répare la copie 16 mm, qui la prépare
la bobine.
Les bobines, avec le scotch, etc. Et donc la projection, donc il y avait un côté très sensuel, vous voyez, c'est un peu plus froid. C'est très pratique Internet, hein, mais c'est un peu plus froid tout ce qui est digital. Là, il y avait un côté très chaleureux, avec le défaut qui est qu'il le montre complètement à l'aveugle, donc il ne sait pas ce qu'il montre.
Et comme vous dites, sensuel, organique, c'était aussi le cas dans les radios à l'époque, où on devait couper, coller la bande, et il va y avoir des surprises aussi. Et ce côté organique, ça vous manque? Ou vous avez vraiment, vraiment l'appréciation maintenant des facilités proposées par le digital?
Non, ça ne me manque pas. Je ne peux pas dire que ça manque. Je me souviens, moi, d'avoir appris, quand je suis rentré à l'école de cinéma, à faire des montages pour des émissions de radio. Donc, on avait la bande magnétique avec le petit ciseau en biais. C'était formidable et c'était très agréable. Mais ça permet tellement de choses. Par exemple, le mixage en digital permet tellement de... Sur le son, on peut faire des choses formidables. Monter dans les aigus sans accélérer la vitesse, etc. On peut faire mille choses. Du coup, c'est plutôt la liberté qui m'enchante. J'aimerais pas avoir un fétichisme.
Une nostalgie?
J'aimerais pas non plus être nostalgique. Je trouve que le cinéma, c'est un art du présent. Faut aimer le présent, quoi. C'est ça qui est magnifique, c'est le présent. C'est un cadeau, quoi. Donc, c'est de se réjouir de ce qu'on a à vivre maintenant. Je trouve ça formidable aussi.
Alors, j'abonde en votre sens, Arnaud Desplechin, mais je vais faire l'avocate du diable. Il y a quand même beaucoup de mélancolie dans vos films.
C'est vrai. C'est vrai.
Vous plaidez coupable.
Oui, je plaide coupable.
Très bien.
Mélancolie, nostalgie, je regrette de l'être. Alors, je me bats contre mon tempérament. Voilà, je me bats contre mon tempérament mélancolique.
C'est un peu la Madeleine de Desplechin.
Oui, c'est ça. Oui, bien sûr.
Et à propos de votre film, sans tout déflorer, en fait, au début, on découvre que Paul aime bien être au 7e rang. Mm-hmm. C'était vous à une époque?
Non, moi j'ai commencé au milieu. J'ai commencé au fond de la salle quand j'étais un jeune spectateur vers les 12 ans. Après ça, quand je suis arrivé à Paris, je m'asseyais au milieu. Vous voyez, j'aimais bien, vous voyez les très proche comme ça de l'écran, bien au milieu pour avoir le son en stéréo. Vous voyez, c'était tout le nouvel Hollywood, les Scorsese, les Coppola, les Spielberg et tout ça. Et puis peu à peu, sous l'influence de mon maître qui était Jean Doucher, un grand critique de cinéma, j'ai commencé à glisser sur le côté pour avoir l'illusion, c'est une illusion, hein, d'avoir mon point de vue sur l'écran, alors que nous avons tous le même. Mais j'avais l'impression que quand je me mettais un peu sur la gauche, je voyais mon angle et qui n'était pas... Vous voyez, c'était mon angle chéri, quoi.
Privilégié. Alors,
voilà, privilégié. Et donc j'aime bien comme ça avoir un petit biais sur l'écran, ça me déplaît pas.
Et c'est toujours à l'heure actuelle cette place sur le côté?
Oui, toujours sur le côté. Oui, ça s'est accentué avec l'âge.
Alors justement, vous mentionnez dans le film, il me semble que c'est bien vous en voix off et non pas Paul, le théâtre, où le théâtre vous dites que en fait la place nous attribue un angle personnel à chaque spectateur. Ouais. Allez-y. Buvez à la santé de votre film spectateur au festival du film français d'Helvétie. Il n'y a pas de calvados dans le café là que vous buvez.
Non, je le regrette, mais il n'y a pas de calvados.
Ça, réclamation c'est ça, ouais. Auprès du festival. Donc, je disais, vous parlez du théâtre et vous mentionnez que vous citez, je crois...
Oui, c'est une leçon qui est donnée par Michel Esco, qui est un merveilleux acteur de théâtre et de cinéma maintenant que... Il était formidable dans le film de Valéria, dans Les Amandiers. Il est très, très bel acteur. Et donc, il donne ce cours. Et il explique que oui, le spectacle, c'est de la démocratie qui travaille, quoi. Mais alors, la démocratie moderne, c'est le cinéma. Alors, vous mettez le bulletin dans l'urne et vous êtes tous à égalité. Alors, le théâtre, non. Au théâtre, vous voyez, par exemple, Les Enfants du Paradis. Si vous n'avez pas d'argent, vous êtes assis tout en haut. Vous ne voyez pas du tout la même chose que les riches qui sont assis tout à côté de la scène ou dans la petite corbeille.
Voilà.
Donc, chaque point de vue est, Donc, chaque point de vue est très différent les uns des autres. Et ce qui est formidable... Enfin, moi, ce dont je suis amoureux, c'est la démocratie moderne, quoi, du cinéma. C'est qu'on est tous à égalité. On voit le même angle de près. Et cette égalité, je trouve ça... Et l'égalité, cet anonymat, c'est extrêmement agréable. Mais je vais prendre un exemple idiot parce que sinon ça fait abstrait. Mais vous voyez, quand je fais un tournage, je suis considéré comme le prince ou comme le roi ou comme le général, etc. Alors tout le monde se dit non, et alors il faut le conduire en voiture et tout ça. Et quand le tournage s'arrête, je me suis dans le métro et je suis merveilleusement heureux. Vous voyez, tout d'un coup, je suis absolument anonyme et c'est un plaisir entier.
De nos jours, et surtout à cause de la pandémie et du confinement, le cinéma a été malheureusement fermé, interdit, et on s'est en fait rabattu sur les plateformes, sur les films en streaming, sur les films, sur les, justement ces GAFAM que nous proposaient. C'est quand même une relation très différente. Comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je l'ai vécu de manière partagée. D'abord, il y a eu un côté pour moi un peu utopique dans ce moment de Covid, de confinement. C'était des temps très, très singuliers comme ça, on était enfermés. Alors, j'étais avec mon fils, mon ami, et c'était très fort, c'était très intense. Comment occuper les journées, le rythme changeait, c'était tout à fait intéressant à vivre. Avec cette peur derrière, c'est ce que le cinéma s'en remettra. Effectivement, il y a des plateformes, j'arrive pas à m'en désoler parce que il y a un des plus beaux films que j'ai vus dans la décennie, enfin dans les 5 dernières années, je ne sais plus exactement la date de sortie, c'était Roma, le film de Cuarón. Ça m'a impressionné comme un Fellini, quoi. Et c'est très différent de Fellini. Enfin, c'est une voix tellement puissante, tellement singulière, c'est sur les plateformes. Je n'ai pas eu la chance de voir le film en salle. Bah, le film, j'ai adoré, je l'ai vu plusieurs fois, ça compte, c'est un film qui m'aide à vivre, qui m'aide à travailler, qui m'aide à écrire.
Donc, Alfonso Cuarón dit qu'il est très personnel, en même temps, il rend hommage au Mexique, à son histoire.
Oui, c'est cette scène de manifestation hallucinante dans un magasin de meubles, comme ça. Le film est vraiment à couper le souffle, c'est un film à grand spectacle, et pourtant, c'est fait pour les plateformes. Bah, tant mieux, il ne trouvait pas l'argent dans le cinéma, tant mieux pour lui, vous voyez, j'arrive pas à le regretter. J'adore la salle, mais je trouve qu'il y a des inventions qui sont formidables, qui se font grâce aux plateformes. Donc, j'arrive pas à mettre en rivalité. Et alors, il y a eu un moment, un péril. La France, parce que quand même, c'est un pays très cinéphile, le cinéma a commencé à remarcher. Et puis, dans le fond, aux États-Unis, le cinéma mute. Hein, il n'arrête pas de muter, de changer. Les gens ne vont pas voir les mêmes films qu'avant, etc. Mais quand même, ça se passe. Quoi. Ça se passe, les gens viennent dans les salles, ils viennent regarder, il se passe des choses sur les écrans. Donc, j'arrive pas à penser à une rivalité, mais plus à une complémentarité entre les plateformes et les films.
Pour revenir à justement spectateur, point d'exclamation, vous mentionnez une artiste que seuls les cinéphiles connaissent, Alice Guy, qui a à la fois réalisé, qui a produit, qui est partie aux États-Unis, qui a fait carrière aussi là-bas. Et c'était important pour vous de rappeler ce qu'elle avait apporté au cinéma ?
Ah, très important, parce que c'était une époque où il y a peu de cinéastes femmes, que c'est une vraie artiste, et pas seulement, c'est aussi une productrice. Elle a inventé, quoi. C'est les grands inventeurs. Mmh. Et parmi les opérateurs lumière, et le film que j'ai choisi de montrer, qui est un film, c'est Dominique Payne qui me l'avait fait découvrir. C'est un film, ça a l'air, si je le raconte à la radio, tout le monde va penser que c'est nul. Et c'est juste des gosses qui jouent avec un adulte et un chien dans un torrent. Et c'est hallucinant. C'est-à-dire, il y a une impression de vitalité qui sort de chaque photogramme. Le film est très court. C'était
des petits bobinos. Les formats de l'époque.
Mais c'est les formats de l'époque. C'est des petits bobinos lumière, etc. Et vous avez un appétit de vie, une sauvagerie comme ça dans le
monde. Une vitalité.
Des médias, voilà, qui coupe le souffle et qui est supérieur à bien d'autres films, d'autres opérateurs lumière. Mais celui-là est signé. Il est signé Alice Guy. Et du coup, ça m'a importé de lui rendre hommage.
Vos films suscitent à la fois émotion, sourire, réflexion. Et vous avez un film qui vous a beaucoup marqué, c'est Shoah de Claude Lanzmann.
Oui, c'est très certainement. Enfin, on s'est rendu compte, je m'en rendais compte à l'écriture un peu. J'étais très ému quand je suis retourné chez Lanzmann pour aller filmer chez lui. Et puis quand j'ai été en Israël pour parler avec Shoshana Feldman, qui est une philosophe que j'aime beaucoup. Et puis au montage, voilà, je me suis dit, le cœur du film, c'est ça. Quoi. Le cœur du film, c'est ça. Je pense pas je crois pas aux histoires du meilleur film du monde, etc. Est-ce que le meilleur film du monde, c'est Roma ou Shoah? J'en sais rien. C'est des films que j'adore.
Ou Ville Lumière.
Voilà. Mais c'est une expérience de cinéma, Shoah, très singulière, qui vous convoque à qu'est-ce que c'est être spectateur. Et donc, c'est sur ce mystère de cette projection que j'avais vue, le fait que j'ai vu le film en salle et pas sur un DVD que je peux, ou une plateforme que je peux arrêter, reprendre. Non, non, vous voyez le film en salle, il se déroule, vous ne pouvez pas empêcher son déroulement. C'est ça la position de spectateur qui est très agréable, si vous n'avez pas le contrôle de la projection. Et donc l'expérience de la vision de Shoah, pour moi, c'était l'expérience absolue de ce que c'est être un spectateur de cinéma. Je ne veux pas dire que le film soit supérieur à Apocalypse Now ou moins bien, etc. Ce n'est pas des questions de comparaison. Et donc, du coup, et puis j'ai eu la chance, la vie a été assez généreuse, ou j'ai été assez audacieux, allez savoir. Mais j'ai eu la chance de devenir ami de Claude Lanzmann. Et donc, c'est un peu un tombeau pour quelqu'un que j'ai infiniment aimé, la personne et l'œuvre.
Pour revenir aussi au fait d'être spectateur, vous êtes en Suisse. Il y a quelqu'un qui a dû vous influencer quand même, c'est Jean-Luc Godard avec son livre d'images, entre autres.
Ah bien sûr, vous voyez, quand on finissait d'écrire, c'est le moment où Godard, en Suisse, choisissait de mourir. Mmh. Et donc, je pensais aux histoires
septembre
du
2022.
Cinéma. Voilà, et je pensais aux histoires du cinéma, évidemment, que j'ai vu plusieurs fois. Et qui était un peu comme la main du commandeur. Il y a beaucoup de citations dans le film. J'en citerai juste de Godard, hein, des citations cachées pour les cinéphiles. J'en citerai juste une, c'est la chanson de Tom Waits à la fin, qui est la musique de Prénom Carmen, que Godard, avec Coppola, avait demandé à Tom Waits de lui composer une chanson pour le film. Et j'avais revu Prénom Carmen à la mort de Godard, et j'étais fan du film. Et du coup, le film se conclut avec ce... Oui, c'était un maître. Mais j'aimerais bien... j'aime bien, parce qu'il y a une amie qui m'en a parlé il y a très peu de temps, j'aime bien ne pas oublier Charles Moreau-Vif, ne pas oublier Tanner, ne pas oublier...
Tanner, qui était mort 2 jours avant Godard,
ouais,
et qui a été quasiment évincé des hommages, ouais, parce que Godard est parti.
Ben oui, ça a toujours été le... Godard était méchant comme tout, et était méchant avec Tanner, je me souviens.
Et on s'est demandé s'il a choisi la date, parce qu'on venait d'apprendre la mort de Tanner.
Et donc, par rivalité, c'était un homme très rival, hein, Godard. Mais il y a une émotion, je pense à des films de Tanner que j'ai vus, La Salamandre, il y avait aussi, qui est un très très beau film, qui sont des films qui m'ont énormément marqué quand j'avais 17 ans, vraiment, qui sont des films, il y a une émotion dedans. Chez Godard, il y a une invention formelle qui est incroyable, mais il y a une vibration de l'âme dans les films de Tanner qui m'est extrêmement chère.
Et donc vous êtes proche aussi d'un certain cinéma suisse?
Ah bien sûr, ouais. Je vais sécher quand je vais chercher les noms, et puis je vais mal les épeler. Vous voyez, c'est lâche, c'est pathétique.
Bon, il y a les contemporains, Bayer.
Ben bien sûr, évidemment, Lionel Bayer qui est formidable, et qui avait fait des films avec un ami, avec Michel Villarmoz, qui était un film absolument merveilleux. Il y avait Ursula Meyer, qui a un autre talent, qui est très, très différent, qui est moins de comédie, et qui va chercher une fièvre dans ces personnages comme ça que j'admire tout à fait.
J'ai mentionné tout à l'heure Roubaix Ville-Lumière. Mm-hmm. Est-ce que c'est le film qui vous est le plus proche, qui vous est le plus personnel, à l'instar de Roma pour Cuaron?
Ah, c'est un film qui compte énormément pour moi. Mais ce qui est très beau aussi, c'est... Vous voyez, je vois la position de réalisateur avec modestie. Ce qui est très beau, c'est que c'est la rencontre avec les actrices et acteurs. Vous voyez, c'est Rushdie, c'est mon dialogue avec Rushdie.
Rushdie Zem,
qui m'impressionnait beaucoup, qui m'impressionne toujours beaucoup, c'est un homme très impressionnant. Et tout d'un coup, on se connaissait depuis très longtemps sans oser se parler. Et tout d'un coup, on arrivait à se parler. Et c'était magnifique parce que du coup, il a inventé le film. Alors quand je regarde le film, je ne sais pas qui l'invente, si c'est Rushdie Zem ou si c'est moi, ou si c'est Léa, ou si c'est... Peu importe, le film existe. Et je repense à un titre dans Spectateur. C'est un film qui s'adresse aux humiliés, aux offensés, qui parle aux gens qui parle de ces femmes qui n'ont rien, des gens qui n'ont rien.
Les Algériens dans Roubaix Ville-Lumière.
Oui, tout à fait. Et ça me touche énormément. Vous voyez, dans Roubaix Ville-Lumière, que enfin j'ai réussi à parler de gens qui sont vraiment déshérités. Et que ce soit pas montré.
Donc ils sont stigmatisés.
Voilà, et que ce soit pas montré avec misérabilisme, les montrer entièrement avec leur grandeur, leur ridicule, et avec leur côté adorable, la vibration. Et pour moi, d'arriver à ça. Donc c'est un film qui charrie pour moi, en moi, une émotion tout à fait singulière.
Et qui transmet cette émotion d'ailleurs. Dans Roubaix Ville-Lumière, vous mentionnez que vous avez grandi dans ce milieu où il y avait la cour pour les petits Français. La cour d'école pour les Algériens, c'était vraiment compartimenté.
Mais c'était compartimenté, évidemment, ce n'était pas la loi, ce n'était pas l'apartheid, mais il y avait un système social, un système de répression qui continue, hein, d'oppression économique, et qui faisait que les garçons, quand ils arrivaient au lycée, ils échouaient. Donc il y avait la cour, ça venait géographique, il y avait la cour en haut, avec les Français qui s'en sortaient, et puis en bas, ben, il n'y avait que des garçons algériens, et puis, parce qu'eux, ils étaient ce qu'on appelait en classe de transition, les collèges techniques, quoi. Et qui donc était destiné, après, avec mes amis algériens, avec les amis algériens qui venaient dans la maison de mes parents, etc., ils racontaient, les professeurs eux-mêmes disaient, ben non, choisis pas les études de lettres, tu ne trouveras pas de travail, choisis les études techniques, vous voyez. Et donc, peu à peu, s'instituer comme ça une espèce de ségrégation, il faut dire le mot, de système de caste, de ségrégation, donc une sorte de très douce, très feutrée, très démocratique, mais d'apartheid, et voyez, c'était tout à fait insupportable, et ça continue avec les quartiers, avec des choses comme ça. Je dis pas, j'ai pas la fibre politique, donc je sais qu'il faut faire ceci ou cela.
Pourtant, vous êtes engagé.
Mais il faut y être attention. Il faut le garder à l'esprit, et je crois que c'est quelque chose qui doit tout le temps se travailler. C'est-à-dire tout le temps doit se remettre en question de dire bah oui ça marche pas assez bien. C'est sans fin. Il faut pas être épuisé de ça. Il faut dire bah oui c'est sans fin bien sûr. C'est la tâche des êtres humains de fabriquer un monde un peu meilleur. Il n'est jamais assez bien, je suis désolé, il n'est jamais assez bien, quoi.
Mais Arnaud Duplessis, pourtant, à travers vos actions, on voit que vous êtes engagé.
Quelquefois, j'ai une petite limite, surtout sur la question de l'étranger, la question des sans-papiers, ou la question, qui est une question très compliquée. Hein.
La loi de Bray.
Oui, c'était ça. Je n'aime pas l'idée que les artistes, les acteurs, les réalisateurs, les réalisatrices puissent avoir un avis plus éclairé que le reste de la population. Je crois que quand vous êtes infirmière, vous savez très très bien comment un pays marche. Je crois que quand vous êtes éboueur, quand vous êtes épicier, vous savez très très bien. Coiffeur, vous apprenez énormément de choses en écoutant vos clients, etc. Chauffeur de taxi, ô combien. Donc j'aime pas l'idée de donner une leçon, vous voyez, parce que ma position artistique me donne aucun privilège. J'ai pas envie de privilège, ça m'intéresse pas. Et donc quand on avait fait ce truc avec Pascal Ferrand sur à propos des mariages mixtes, qui est une question qui m'obsède, on disait voilà, nous réalisateurs, on pense ça, mais nous, ouais, on n'a pas plus raison. Mais le même texte pouvait être repris par n'importe quelle corporation pour dire ben, nous, coiffeurs, on pense ceci. Et nous, etc. Vous voyez, je n'avais pas l'idée d'un privilège des artistes. Voilà, c'est juste ça, ma toute petite réticence.
Oui, n'importe quel citoyen ou citoyenne peut s'exprimer et exprimer son opinion comme tout un chacun. Je vais m'adresser aux spectateurs, puisque c'est quand même le sujet de notre rencontre. Arnaud Duplessis, quel spectateur êtes-vous? Et vous n'avez pas mentionné quel spectateur vous étiez lorsque vous avez découvert la nudité au cinéma?
Ah, ça, c'est une grande affaire. La nudité au cinéma, c'est une très grande affaire. C'est merveilleux. Il y a des films, c'est dans les premières choses qui ont été filmées. Alors, ça ne se montre pas beaucoup. On montre plutôt l'entrée du train en gare de la Ciotat, etc.
Non, mais il y avait Marilyn Monroe, par exemple.
Ah, ben Marilyn Monroe, la nudité de Marilyn Monroe, c'est...
Certains l'aiment chaud.
La robe de Marilyn Monroe dans certains l'aiment chaud. Quand je vois ça à la télévision, je le crois pas. Cette générosité, j'ose pas la regarder. J'ose pas regarder sa poitrine, qu'elle est généreuse. Ça déborde, hein. Vous voyez, j'arrive pas à accueillir l'image, quoi. Et je pense...
C'est déjà la 3D
merci,
à l'époque.
Merci, merci. Ah bah oui, c'est la 3D. Et merci. Et le chagrin de Marilyn, mais cette vulnérabilité qu'elle a et le triomphe de son corps en même temps, c'est absolument sublime, quoi. Et de découvrir la nudité, c'est bien sûr qu'on est des voyeurs. On y va pour découvrir quelque chose qui est caché, qui est tout d'un coup. Mais ce qui est magnifique, c'est que comme l'image est grande et que l'image est travaillée, tout ce qui peut être humble, parce qu'il y a une vulnérabilité du corps humain, est montré au triomphe. Et cette montée au triomphe de la nudité de Monroe est magnifique. Et la nudité qui se dérobe aussi est magnifique. La nudité que vous espérez, qui n'arrivera pas, mais qui vous est promise et tout ça, super beau, c'est vachement intéressant. On n'ose jamais le dire, mais c'est intéressant.
Arnaud Duplessis, vous nous mettez dans une telle situation dans votre film, parce qu'il y a la fameuse scène entre Hugh Grant et Julia Roberts. Et en fait, Hugh Grant est privilégié, là, il peut voir la poitrine de Julia Roberts que personne ne voit.
Non, personne ne voit. Et Julia Roberts, vous savez, elle fait toujours les contrats très très serrés, vous voyez, pour dire non, quelle partie de mon corps sera filmée, etc. Elle est très très pudique comme actrice. Et donc, personne ne l'a vue nue. Mais oui, mais l'acteur qui joue avec elle, qui est dans les draps.
Même Richard Gere.
Richard Gere. Mais non, vous savez, quand elle est dans la baignoire, il me semble bien qu'il y a énormément de mousse. Mmh. Et c'est raconté, j'avais vu un documentaire sur le film. Non, non, elle était en maillot de bain en dessous de la mousse. Hein, la mousse était là pour cacher
donc
le maillot
de bain. Donc c'est sa stimulation de l'imagination.
Voilà.
Et donc, vous vous êtes amusé à mettre cette scène, justement, par rapport à ce qu'on peut susciter comme désir, comme imagination, comme fantasme, sans le montrer au cinéma.
Oui, mais c'est aussi que j'aimais bien comparer deux films. Si vous voulez, c'est pour les chapelles de cinéphiles, mais il y a un film qui est considéré comme noble, chic, que j'aime beaucoup, hein, qui est New York Miami, et il y a un film qui est plus populaire, qui est Coup de foudre à Notting Hill. Mmh. Et moi j'aimais bien, ça, c'est vraiment une obsession chez moi, c'est de dire, il n'y a pas ce qui est noble et populaire, c'est la même chose au cinéma. C'est la même chose, il n'y a pas le bon art et le mauvais art. Il y a des trésors d'invention dans les films populaires, et il y a des films chics qui sont moins bien. Donc de comparer un film qui est reconnu comme un chef-d'œuvre à un film qui, à mon avis, est un chef-d'œuvre, qui est Coup de foudre à Notting Hill, qui n'est pas encore reconnu à sa juste valeur, ça me plaisait beaucoup.
Arnaud Desplechin, on doit malheureusement vous quitter. En tout cas, c'est un bel hommage que vous rendez au 7e art.
Merci.
Et on vous souhaite un bon succès avec le public suisse à Bienne. Mmh. Belle rencontre. Merci beaucoup, Arnaud Desplechin.
C'est moi qui vous remercie.